Bonjour à tous et bienvenue dans cet embellie réalisé par Juliette Gou, préparé par Arnaud Jamin et mise en musique par Juliette L'Orphelin. À la technique ce matin, Jean-Philippe Jeanne. Soyons honnêtes, les deux livres que j'ai publiés ont marché moyennement. Le premier, Remède à la mélancolie, fut classé dans le mauvais rayon, bien-être plutôt que culture. Le second, sur le peintre Léon Spilliart, est sorti juste avant que l'expo consacrée à l'artiste au musée d'Orsay ferme prématurément à cause de la pandémie. Ces fâcheux auspices sont-elles la seule explication de mon semi-succès papier? Sans doute pas, et je prouve que je suis un chic type en vous parlant du quatrième best-seller de mon confrère, François-Régis Gaudry, qui s'est entouré de ses amis chez Marabout, un livre vraiment formidable qui aurait marché même sans imprimerie. On va déguster Paris, encyclopée guide dévorant la capitale à pleines dents, est une réjouissance à tous les niveaux. On découvre plein d'endroits, on apprend une multitude de choses et le livre est magnifique. J'ai donc décidé d'aller ajouter mon nom au Tipex sur toutes les couvertures du livre imprimé en France. Actrice, réalisatrice et scénariste, notre invitée a une fantaisie irrésistible et je sais que ses sourires légendaires risquent de me faire oublier certaines questions. Fidèle dans ses collaborations, Arnaud Desplechin, Florence Sévos, Valeria Bruni-Tedeschi, Riyad Satouf ou Bruno Podalides, je cite des noms ayant occupé différents postes autour d'elle, hein, si le mystère est trop grand, Internet vous attend. La créature qui me fait face saura vous envoûter toute l'année. Son prochain film, La Grande Magie, librement inspiré de la pièce éponyme d'Eduardo de Filippo, sort le mercredi 8 février. Dedans, la démiurge s'est notamment entourée de Sergi Lopez, Denis Podalides, Judith Chemla ou encore Rebecca Marder. Vous la verrez également bientôt dans Jeanne du Barry de Mai Wen et en ce moment dans L'Envol de Pietro Marcello et Youssef Salema du succès de Baya Kasmi. Je conclurai en citant Vincent Lacoste à son sujet. Avec elle, ce qui est génial, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Noémie Lvovsky.
Bonjour.
Êtes-vous contente d'avoir été mise au monde?
Oui.
Sans hésitation?
Aucune hésitation.
Je suis toujours surprise quand les gens n'ont pas d'hésitation.
En fait, je me suis toujours dit qu'on pouvait avoir envie de quitter la vie, on pouvait avoir envie de mourir, mais je vois pas comment on pourrait avoir envie de ne pas être né. Jusqu'à ce que j'écoute une émission sur Sioran.
Ah bah oui.
Qui m'a mis la tête à l'envers.
De l'inconvénient d'être né, meilleur titre de l'histoire.
Non mais je vois même pas comment c'est pensable, comment c'est concevable. On peut pas concevoir de ne pas être né.
Oui.
Enfin moi je peux pas en tout cas.
Comment se passe la cohabitation avec vous-même?
Oh.
Plus compliqué.
Oui, c'est plus compliqué.
Au début de votre nouveau film La Grande Magie, Denis Podalides campe un homme crispé dont on dit qu'il a une mine de condamné à mort, puis l'on corrige, de condamné à vie. Et à un moment, il a ce propos: « Je suis un homme heureux parce que je ne me fais pas d'illusions, je n'attends aucune surprise de la vie, je ne fais confiance à personne, pas même à moi. » Y a-t-il un peu de vous dans cette affirmation ou vous vous situez-vous à l'opposé?
Je crois que je me situe à l'opposé. Non, je crois pas, je suis sûre.
Ah bon, c'est plutôt réjouissant. Ah. Le jour qui se lève, Noémie Lvovsky, suffit à vous donner envie de l'imiter. Si vous êtes à la campagne, la nature qui se réveille, le chant des oiseaux. Si vous êtes en ville, l'idée d'un thé au lait et au miel en écoutant la radio. Alors, quel thé?
Alors,
très important.
Ça peut être du... Ça vous intéresse?
Oui, ça m'intéresse vraiment, tout m'intéresse.
Du thé Earl Grey, du thé russe, du thé, du chai... Voilà, ça peut être beaucoup de thé noir.
Et savez-vous reconnaître les oiseaux à leur chant?
Malheureusement, pas assez bien. Un petit peu, mais pas... Je reconnais les oiseaux nocturnes et les oiseaux diurnes. Enfin, c'est peut-être uniquement parce qu'il fait nuit et parce qu'il fait jour.
Dans un instant, il sera entre autres question de Balzac, Dostoïevski, Molière, Musset, Renoir, Rossellini, Truffaut et Coppola, mais aussi de John Didion, Douglas Sirk et David Lean. Beaucoup de chics fantômes nous attendent jusqu'à 11h.
Était-ce l'hiver qui coulait de ses yeux? Ce salaud d'hiver, il éteignait le feu. qui courait hier encore dans ce corps soudain là figé en bloc de pierre. Tu passais des heures avant entre les marronniers à compter les boutons d'or, à jouer sans arrêt. Quand d'un coup de vent de terre, augure d'hiver, tu t'es recroquevillé en bloc de pierre. Et ce quelque chose dans l'air qui fleurait la fin des beaux jours, ce je ne sais quoi dans l'atmosphère, te faisait mal comme un amour qu'on voit s'éloigner sans rien dire. Et tu restais sans rien dire à fixer le néant. Que la mer est froide et silencieuse, que rien ne rayonne plus sous ton ciel pluvieux. Mais dans les chaumières, quand la nuit tombe et que s'allument les cheminées, les cœurs s'éclairent. On passait des heures ensemble à s'amuser de peu, à crier à ta fenêtre de prendre part à nos jeux. Mais maintenant que la pire des peurs t'a prise de court, comment te dire que chaque jour qui passe est une aubaine à qui le veut. Mais c'était pas des journées joyeuses, mais c'était pas fait pour aller mieux. Toi t'étais pas encore amoureuse, mais déjà l'air égaré. Tu regardais passer les heures, assise au fond du canapé, rideau tiré. Que rien ne t'atteigne, pas même les jours heureux. Et ce quelque chose dans l'air qui fleurait la fin des beaux jours, ce je ne sais quoi dans l'atmosphère, te faisait mal comme un amour qu'on voit s'éloigner sans rien dire. Et tu restais sans rien dire à fixer le néant comme un aimant.
Voyou, le morceau L'hiver dans l'embellie sur France Inter. Nous sommes avec Noémie Lvovsky.
Toutes les gares se ressemblent et tous les ports crèvent d'ennui. Toutes les routes se rassemblent pour mener vers l'infini. Dans la cohue de l'existence se trouve toujours un passant qui n'a pas eu de ligne de chance et qui devint un émigrant.
1954, Les Migrants, avec un L apostrophe de Charles Aznavour pour introduire ce que vous aimeriez changer dans la société. Noémie Lvovsky, je vous lis. De façon enfantine, j'aimerais que la société soit moins injuste, moins brutale, moins violente. De façon plus précise, je voudrais qu'elle comprenne que les immigrés et les migrants ne sont pas un problème, mais une richesse pour les pays qui les accueillent, une promesse de progrès.
Oui, je ne sais pas si j'ai quelque chose à ajouter. Quand je dis de façon enfantine, parce que c'est tellement vaste, le souhait que la société soit moins brutale, moins cruelle et moins violente. C'est, du coup, ça me paraît enfantin. C'est aussi parce que quand on est enfant, on ne comprend absolument pas ça. On ne comprend absolument pas les injustices. Je pense que la plupart des enfants qui vivent en ville, par exemple, quand ils croisent pour la première fois un mendiant assis par terre et qui pose la question à l'adulte avec lequel il se promène, disent « Et pourquoi il n'a pas de maison ?» Et puis ce qui vient tout de suite après, en pensée, c'est « Et pourquoi moi j'ai une maison ?» Voilà, c'est des choses toutes bêtes comme ça, que je crois que quasiment tous les enfants ont connu et qu'on oublie un petit peu en devenant adulte. Et il faudrait ne pas l'oublier. Et puis, de façon plus précise, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à supporter la façon dont les migrants... D'ailleurs, j'aime pas trop dire migrants, parce qu'on dirait une bande d'oiseaux migrateurs. Mais ceux qui immigrent sont traités. Et même la façon dont on pense à eux, je trouve ça aberrant quand on se dise pas avant tout qu'ils sont une richesse, qu'ils peuvent être une richesse et qu'ils sont une richesse pour le pays qui les accueille, eux, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Voilà.
Ça me fait penser à la phrase de Saint-Exupéry, « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. »
Bien sûr, c'est un bonheur que les autres soient autres. C'est un bonheur, c'est une richesse, c'est une chance.
Noémie Lvovsky, vous vous impliquez de tout votre être dans les films que vous écrivez, que vous réalisez et dans lesquels vous jouez. Il y a une question que je me pose, vous n'avez jamais la flemme de tourner une scène ?
Non.
Parce que parfois, non. Je vois des acteurs dans des lacs glacés, puis je pense à eux.
Non, je crois que quand ces acteurs sont dans un lac glacé, au moment où ils y sont, et où j'y serais, si je devais aller dans un lac glacé, on est pleinement dans la scène. Peut-être juste avant, on se dit « Oh là là, non, j'ai pas envie d'aller dans un lac glacé. » Et juste après, on se dit « Waouh, je suis fatiguée, là, j'ai été dans un lac glacé. » Mais non, le moment, en tout cas ça c'est pour les actrices, pour les acteurs, le moment de la scène, le moment où on joue, on est pleinement dedans. Et pour la réalisation et pour l'écriture, c'est pareil.
Le désir est aussi présent qu'à vos débuts ?
Oui, oui, oui.
Je crois savoir que la passion de votre père pour les Marx Brothers a joué un grand rôle dans votre comique. Il vous appelait Harpo et vous vouliez le faire rire comme un clown.
Oui, je crois que j'avais un très grand besoin de faire rire mes parents. Et mes parents, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais ils ont eu une histoire, ils avaient une histoire tragique. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que je n'arrive pas à écrire d'histoires tragiques. Mais je vais toujours vers le drame ou la comédie, ou le drame sentimental, je ne sais pas comment appeler ça, puis j'aime pas trop les catégories, mais la tragédie, j'y arrive pas. Et j'avais envie et besoin de les faire rire. Il se trouve que mon père, malgré son histoire tragique, attendait qu'une chose, c'était de pouvoir jouer et rire. Et il adorait les Marx Brothers. Et quand je le voyais devant un film à la télévision, parce que c'est par la télévision que j'ai connu le cinéma, devant un film des Marx Brothers, son visage s'illuminait. Il passait d'un visage souvent grave à un visage lumineux et heureux et joyeux. Et ça m'inondait de bonheur. Voilà. Et puis il m'appelait Harpo parce que j'étais frisée.
Dans votre film, Noémie Lvovsky, La Grande Magie, il y a du chant, de la danse, beaucoup de performances, une grande beauté des plans. Et la thématique principale, c'est autour du jeu, justement. Vous parliez de jeu à l'instant. Est-ce que vous vous êtes autant amusé derrière qu'à l'écran ?
Oui, 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 je crois. C'est-à-dire, on a beaucoup travaillé, bien sûr, et on a fait des semaines et des mois de répétition avec les comédiens, avec certains musiciens, avec une professeure de chant, avec Caroline Marcadet, la chorégraphe, et son assistante, avec le premier assistant. Enfin voilà, on était tous accompagnés par les producteurs. Et ces semaines de labeur, parce que on répétait chaque jour ou chaque heure, même on se disait oh là là, on n'y arrivera jamais, ont permis sur le plateau d'être très joyeux, je crois, très ensemble et très joyeux. On n'a pas l'habitude au cinéma de répétition. Moi, j'aime les répétitions, j'adore les répétitions, même quand il ne s'agit pas d'un film chanté et dansé, même quand il s'agit d'un film plus je ne sais pas quel mot employer, plus normal, plus classique. J'ai toujours besoin et envie de répétition, et ce n'est pas l'habitude au cinéma, et je le déplore. Il faudrait convaincre les producteurs et les financiers que, en tout cas pour ceux qui aiment répéter, ça n'est pas une véritable économie que de ne pas faire de répétition. Il faut en faire, en tout cas pour ceux qui aiment, pour ceux qui en ont besoin, oui.
Je vais vous poser deux questions en rapport avec le film, mais sans expliquer pourquoi, pour ne pas gâcher le plaisir de la découverte aux auditeurs. Quel est votre rapport au temps et au réel ?
Oh.
Est-ce que vous les fuyez, les craignez ?
Le temps m'obsède, vraiment m'obsède. Et le mystère, son mystère bien sûr, et le mystère aussi des couches de temps. Le temps des horloges, le temps de notre corps, et à l'intérieur de notre corps, le temps de notre cerveau, qui n'est pas forcément même, le même que celui de nos artères, qui n'est pas forcément le même que celui de nos poumons, de notre estomac. Voilà, il y a le temps de notre mémoire. Il y a tellement de couches de temps. Et quel est le temps réel ?
Dans les rêves, tout est mélangé, toutes les époques sont mélangées.
Oui, il y a le temps de nos rêves, bien sûr, nos rêves et nos cauchemars, enfin de la vie quand on dort. Il y a le temps d'avant nous, il y a le temps d'avant notre naissance, qui est aussi notre temps. Et puis il y a le temps imaginé d'après notre mort, qui est, à partir du moment où on l'imagine, qui est aussi notre temps. Il y a une telle multitude de temps. Et on aurait envie de pouvoir s'arrêter à quelque chose, de se dire, tiens, voilà, ça c'est le temps réel, et les autres temps ne sont pas réels. Mais non, ils le sont tous.
Et le réel, vous le fuyez, vous l'aimez, vous l'apprivoisez, vous le mettez en scène?
Alors, je fais une différence que je ne saurais pas forcément bien définir entre le réel et la réalité.
La réalité, alors?
Alors, oui, la réalité, elle est... Je la trouve tellement, tellement dure, tellement brutale, violente, cruelle, qu'elle en devient aveuglante. C'est un peu ce que raconte le film. C'est-à-dire que si on n'a affaire qu'à la réalité toute crue, dure, violente, cruelle, aveuglante, on devient fou. Et on a besoin de l'illusion, du jeu, de la fiction.
Et de la magie.
Et de la magie.
C'est une très belle réflexion dans le film La Grande Magie. Découvrons maintenant les écrivains et cinéastes qui composent votre panthéon existentiel.
Devenir méchant. Mais puis-je seulement devenir quelque chose ? Ni méchant, ni bon, ni coquin, ni honnête, ni héros, ni goujat. Maintenant, j'achève de vivre dans mon coin et j'achève aussi de m'enrager avec cette consolation. Que sérieusement, un homme d'esprit ne peut être ni coquin, ni honnête, ni rien, et qu'il n'y a que les sots qui puissent être quelque chose. Oui, un homme du XIXe siècle a pour premier devoir d'être une créature quelconque, surtout sans caractère.
Extrait des Carnets du sous-sol de Dostoïevski, lu par Pierre-François Garrel aux éditions Télème. On va passer en revue plusieurs auteurs, dont Balzac. Mais commençons par celui qui a traduit Eugénie Grandet en russe et qui a beaucoup lu l'auteur de la Comédie humaine, Dostoïevski. Noémie Lvovsky, quelle est votre rencontre avec son œuvre ? Vous vous souvenez de votre rencontre avec son œuvre ?
Oui, j'étais adolescente ou préadolescente, je ne sais plus si j'avais 11, 12, 13 ou 15 ans. Et j'étais très, très frappée par les passions, les sentiments, les personnages qui remuent. Et je me suis dit, mais c'est ça la vie ? C'est terrible !
Et vous y voyez un miroir de la vie à ce moment-là.
Oui.
Vous avez peur des grands sentiments dans la vie ?
Non, je crois pas.
Bravo.
Alors, bravo.
Oui, bah parce que quand même, ça peut faire peur.
J'ai envie de vous retourner la question.
Ah non, moi je vais au cinéma. Moi, grand sentiment égale, je vais au cinéma.
Oui, moi aussi, mais quand même, ils arrivent dans la vie.
Oui. Alors, même question pour Honoré de Balzac et sa grande fresque sociale. Est-ce que vous avez des livres qui vous ont particulièrement marqué ?
Ah, mais toute la Comédie humaine.
Waouh !
Ouais. Parce que, alors, disons que je me, sentimentalement, je m'y retrouvais. Je l'ai aussi lu à l'adolescence. Et peut-être que sentimentalement, je m'y retrouvais moins que chez Dostoïevski, mais je lisais en Balzac en me disant. Ah, c'est ça le monde. Voilà. Et j'ai été très, très, très marquée. Je crois qu'il n'y a pas un jour sans que je pense à l'agonie du père Goriot. Et j'ai eu l'impression, quand j'avais peut-être, je sais pas, 12 ou 13 ans, quand je l'ai lu, que voilà, ben, que j'apprenais ce qu'était la mort, alors qu'à l'époque, j'avais pas encore vu de proches mourir. Et quand ça m'est arrivé de voir des proches mourir, j'ai repensé. Je repensais aussi à l'agonie du père Goriot. Enfin, j'ai appris la vie. Pas toute la vie, bien sûr, mais en lisant Balzac. et Dostoïevski.
Laissez-moi, je vous prie.
Mais encore, dites-moi, quel bizarre rire.
Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher.
Mais on entend les gens au moins sans se fâcher.
Moi, je veux me fâcher et ne veux point t'entendre.
Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'ami, enfin, je suis tous les premiers.
Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être. Mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus. Une nulle place sans des cœurs corrompus.
Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte.
Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne serait s'excuser, et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses et témoigner pour lui les dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments, vous charger la fureur de vos embrasements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme.
1957, le début du Misanthrope de Molière, avec Jean-Louis Barrault dans le rôle d'Alceste et Jean de Sailly dans celui de Philinte. L'esprit, la grâce, la connaissance des hommes, chaque vers de Molière est un éclat d'intelligence. Molière que vous lisiez assidûment à l'adolescence avec Musset et Tchekhov.
Oui, et en fait, j'ai été au théâtre pour la première fois avec le lycée. Mes parents m'ont jamais emmené au théâtre. Alors j'ai connu le théâtre et j'ai me suis mise à adorer le théâtre par les textes que je lisais avant de les voir jouer et représenter. Et Molière était un auteur que j'adorais. J'avais l'impression qu'il avait tout compris et que j'étais absolument chacun de ses personnages. Alceste, Harpagon, Zerbinette, Agnès. J'étais tous les personnages. Je me disais, mais il a tout compris à la nature humaine. Et avec un amour pour chacun, avec autant d'amour pour Sganarel que pour Don Juan, par exemple, et qui s'oppose, apparemment.
Et je disais les répliques par cœur, là, pendant l'extrait.
Oui, oui. Mais c'est des vers qu'on n'oublie pas. C'est tellement... Je sais pas, ça tape tellement juste, quoi. Tellement juste et profond et large que... Les avoir en mémoire, ça, et même parfois se les réciter. Parfois, je me dis à moi-même des scènes de Molière que j'ai jamais jouées et que je jouerai probablement jamais. Par exemple, Agnès dans l'école des femmes, c'est sûr que je la jouerai jamais.
Mais, ouais, mais jamais, tout peut arriver.
Mais ça, c'est comme la poésie, ça. Apprendre des poèmes par cœur ou se dire des scènes de grands textes par cœur. C'est que ça fait, quand on n'est pas croyant, ça fait effet de prière. Ça fait office, plutôt, de prière.
Noémie Lvovsky, vous avez choisi un autre brillant loustique, Alfred de Musset, dont la pièce « On ne badine pas avec l'amour », que vous avez lu près d'une cinquantaine de fois, vous a, je crois, influencé pour le film « Les Sentiments » en 2003.
Alors, oui, on ne badine pas, enfin Musset en général, et « On ne badine pas avec l'amour » en particulier, c'est une des pièces que j'ai le plus lues. 50 fois, je sais pas, mais pas loin, ou peut-être même plus. Et c'est en l'honneur de Musset que j'ai appelé Camille, dans Camille Redouble. Et quand on écrivait Florence Sévaux, c'est moi, les sentiments, je pensais aussi beaucoup, beaucoup à Musset, dont la question, et en tout cas dans Bonne Pas avec l'amour. Mais pas seulement, la question c'est l'amour. Écoute. Et elle est liée, vous me parliez du temps tout à l'heure, la question de l'amour et la question du temps sont intimement liées,
oui.
Dans la grande magie aussi.
Ouais. C'est... Écoutons un gaillard qui s'est aussi inspiré de Musset.
Je crois à la réalité des faits, et je crois qu'il faut s'incliner devant les faits. Je crois que l'on ne fabrique pas la vie, c'est la vie qui nous fabrique. Je crois que devant les circonstances, devant les événements, tenez, mon père avait une théorie, c'est la théorie du bouchon. Il disait, il faut être un bouchon dans le courant. Il faut suivre le courant. Naturellement, le bouchon doit être un petit peu intelligent, pas complètement stupide, et essayer d'évoluer un peu à droite ou à gauche, de façon à choisir le genre, le moment du courant qui lui convient le mieux, et aller tout de même à peu près dans une direction qui lui convient. Mais la direction générale, c'est les événements, c'est le courant qui nous le donne.
1961, le documentaire Renoir parle de son art, de Jacques Rivette. Parlez-nous, Noémie Lvovsky, de votre amour pour Jean Renoir. Est-ce qu'il date de la Fémis ou la précède-t-il ?
J'adore cette histoire de bouchon.
Vous êtes un bouchon sur l'eau?
Au fil de l'eau, j'essaye. Je le suis pas assez. Et d'ailleurs, à chaque fois que je me surprends, c'est-à-dire plusieurs fois par jour, à ne pas être un bouchon au fil de l'eau, je repense à cette phrase de Renoir, peintre, citée par Renoir, cinéaste. Et j'ai découvert Renoir, non, avant d'entrer à l'école de cinéma, avant d'entrer à la FEMIS, et Truffaut, Renoir, Rossellini et d'autres, Coppola, ont été des cinéastes qui m'ont ouvert au savoir que de ce que quelqu'un est derrière la caméra et nous parle et me parle comme si j'étais unique. Ah, parce qu'avant je voyais des films et pour moi les films c'était les acteurs. En fait, j'avais jamais pensé au rôle du réalisateur. Parce que j'avais jamais vu un plateau, parce que je savais rien de la fabrication d'un film, donc j'étais folle des acteurs. Et quand j'ai découvert ces auteurs, je me suis dit, mais non, en fait, la personne la plus importante, c'est la personne qui est derrière la caméra et qui me parle avec sa voix à moi, comme si j'étais unique. Il me parle à moi et seulement à moi.
Je crois que certainement ce qui attire certains garçons vers le cinéma, c'est un besoin d'évasion absolue. C'est parce que la littérature est une bonne évasion, mais le cinéma est une évasion encore plus forte. Et j'ai l'impression que j'ai commencé très tôt à m'évader dans les films. Et puis finalement, on porte ce monde-là avec soi. Alors souvent, on m'identifie à mes camarades des Cahiers du cinéma, Rivette, Chabrol, Godard, etc. Et en fait, je me sens plus proche d'une autre famille qu'on n'a jamais définie, qui comprend Philippe de Broca ou Jacques Demy, parce que je crois que nous avons ce point commun de faire du cinéma pour prolonger justement une enfance comme ça, solitaire. C'est une façon de refaire un monde à son idée.
François Truffaut dans Radioscopie de Jacques Chancel en 69. Truffaut, idole dont vous embrassiez Noémie Lvovsky, la photo avec du rouge à lèvres et à laquelle vous avez proposé le mariage dans une lettre d'amour restée sans réponse.
Oui, je ne sais pas, il n'a peut-être jamais reçu cette lettre. Mais je crois que je lui ai écrit cette lettre parce que je suis passée, comme je vous le disais, d'un amour fou pour mes acteurs préférés en pensant que c'était eux qui me parlait dans les films, c'était acteurs et actrices. Bien sûr, ce sont aussi les acteurs et les actrices qui nous parlent. Mais quand j'ai pris conscience, grâce à Truffaut, grâce à Baiser volé...
À l'âge de 11 ans.
Oui, vers 11 ans, que la première personne à nous parler, à me parler, c'était le réalisateur ou la réalisatrice. Alors à l'époque, c'était quand même beaucoup plus des réalisateurs. Encore aujourd'hui, un petit peu. J'ai eu la même idolâtrie presque, enfin la même passion. Je suis passée de ma passion pour les acteurs à une passion pour certains réalisateurs, dont Truffaut.
Chez Truffaut, la mélancolie n'est jamais loin du rire, un peu comme dans votre cinéma.
Ah oui, il est. Enfin, pour moi, c'est un très grand mélancolique, François.
Mais très
Truffaut.
Pudique.
Très, très pudique, oui, qui dit... Quand, vous savez, je travaille avec une autrice qui s'appelle Florence Sévos. On écrit ensemble depuis 27 ans et demi, pour être précise. Et on a écrit quasiment tous mes films, à part le premier, je ne la connaissais pas encore. Et pour moi, elle est truffaldienne parce qu'elle... Elle dit le moins pour dire le plus, et c'est tempête sous un crâne, c'est-à-dire qu'elle est comme Truffaut, pleine d'émotions et de sentiments bouillonnants, mais tellement pudique que ce qui sort, c'est tout petit et tout simple et limpide. Chez Truffaut, ce qui est incroyable, dans la moindre phrase de dialogue et même dans les plans, dans la façon dont il met en scène et dans le jeu de ses actrices et de ses acteurs, il y a quelque chose d'apparemment doux et qui, au fond, est habité par des volcans en éruption. Et ça me bouleverse.
des volcans qui auraient mis des nœuds papillons, par élégance. Noémie Lvovsky, vous avez aussi choisi Rossellini, le pionnier du cinéma néo-réaliste, et Coppola, évidemment, qui vous a inspiré avec son film Peggy Sue s'est mariée, le film Camille Redouble.
Oui.
Qu'est-ce que vous recommanderiez aux auditeurs comme film de ces deux maîtres ?
De Rossellini, Voyage en Italie. Et, oh là là, de Coppola, je pourrais recommander Le Parrain, mais tout le monde l'a vu. Rumblefish.
Plus confidentiel, Rumblefish.
Ouais. Mais il a fait Coppola a fait des films confidentiels, enfin confidentiels, plus confidentiels que d'autres, absolument magnifiques. Vraiment magnifiques. Je me souviens d'un film de lui, sur l'affiche, son nom était tout petit, écrit en tout petit. C'était un film de studio qui était vendu comme un film de Noël. Je crois que, à chaque fois j'oublie le titre, je crois que c'est Jack. C'est absolument sublime, alors que ça se présente comme un film de studio à Noël et pas du tout comme un film d'auteur. Mais quoi qu'il fasse, même quand il fait un film de commande, Coppola, c'est un film de grand auteur, de génie.
L'embellie sur France Inter.
Take my hands, take these stones, I don't care, in my home. Take my clothes, my fancy shoes, I don't need it anymore. 'Cause I wanna fly so high, be naked in the sky. Disappear with you. People, all these people, talking, always talking. I don't care about your job, I don't wanna change wealth, I just wanna be a little bird. 'Cause I wanna fly so high. Be naked in the sky and disappear with you. Disappear with you.
Goodbye World de Yann Verstraten dans L'Embellie sur France Inter. Nous sommes toujours en compagnie de Noémie Lvovsky. Je vous ai demandé un livre pour être armée dans l'existence. Vous avez répondu, j'ai été aidée par tellement de livres, disons l'année de la pensée magique de John Didion. C'est donc cet essai paru en 2007 et écrit entre octobre et décembre 2004 par la journaliste et écrivain américaine. Un magnifique témoignage sur le deuil. Je vous passe le relais pour en parler.
Ah, je ne sais pas si je saurais bien parler de l'année de la pensée magique, juste... En fait, quand vous m'avez posé cette question, je me suis dit, mais tous les livres des grands auteurs que j'ai pu lire m'ont aidé. Les livres m'aident beaucoup. J'arrive pas, je ne sais pas sortir de chez moi sans un livre dans mon sac, même si je sais que j'aurais pas le temps de le lire dans la journée et que je le sortirai de mon sac pour le lire en rentrant le soir. Il y a quelque chose de tellement aidant. Dans les livres.
Vous avez étudié la littérature, je crois, avant la FEMIS.
Oui, oui, oui. Et donc, je me suis dit, s'il faut que j'en sois, choisisse un. Donc, je me suis souvenue d'une période terrible, vraiment terrible.
Vous riez comme un paravent de pudeur.
Terriblement triste et sans plus de courage, ni de force, ni d'espoir. Et le livre qui m'a redonné tout ça, c'est L'année de la pensée magique de John Didion, que depuis j'offre à tous les amis qui sont dans une sale période. C'est vraiment un livre magnifique. C'est un livre qui parle de deuil et qui en parle d'une si belle et profonde façon qu'on n'est plus désespéré après sa lecture. On peut rester avec du chagrin, mais je crois plus de désespoir.
Ça donne très envie. Enfin, moi, je l'ai lu, mais je vais peut-être le relire. Noémie Lvovsky, je vous ai demandé ce que vous aviez raté et vous avez dit « Je n'ai pas assez appris, je n'ai pas appris à jouer de la musique, du piano, du violon, de la guitare ou du violoncelle. Je n'ai pas non plus appris à parler couramment une langue étrangère. Pourquoi, selon vous, et en avez-vous envie ?»
Oui, c'est-à-dire que je parle italien, mais pas couramment. Je parle anglais, mais pas couramment. Et j'aimerais, alors je pense qu'il est trop tard, mais j'aurais adoré parler 5, 6, 7 langues couramment. J'ai une admiration sans borne pour les gens qui parlent couramment d'autres langues que la leur. Mais peut-être que, puisque vous me demandez ce que je regrette, peut-être que mon regret le plus grand, c'est de ne pas savoir très bien jouer d'un ou de plusieurs instruments de musique. J'ai l'impression que je suis sûre même qu'on vieillit mieux et qu'on pense mieux et qu'on est plus heureux quand on sait jouer de la musique.
Moi, je pense qu'il n'est pas trop tard pour quoi que ce soit.
C'est vrai, vous avez raison. Mais par exemple, j'aime jouer aux échecs. Et quand je joue aux échecs avec quelqu'un de beaucoup plus jeune, c'est comme un sport, hein. C'est-à-dire que quand on vieillit, si on pratique, ça va, on garde un certain niveau. Mais si on pratique pas souvent, plus on vieillit et moins bien on joue.
Ah oui, mais parfois l'expérience l'emporte sur la rapidité du genou en face.
Oui, c'est pour ça que j'aurais aimé apprendre à jouer de la musique enfant. Et ne pas m'être arrêtée. Mais j'ai l'intention d'ailleurs de prendre des cours de piano.
Ah oui. Voici ce que vous recommandez de beau aux auditeurs.
Frankie, you're late. I thought you'd never get here. Let's walk down by the river. I want to talk to you.
We can talk here.
You said you wanted to take a job in Jersey. Couldn't we run away? I'd do anything to be with you. Anything.
That's not a bad idea. Just tell me one thing.
Yes?
Is it true?
Is what true?
Is your mother a nigger? Tell me.
Le dernier film hollywoodien du cinéaste allemand Douglas Sirk, film librement adapté d'un roman de Fanny Hurst, Imitation of Life, sorti en 1959, avec Lana Turner et Juanita Moore. On entend le personnage de Sarah Kane, joué par Suzanne Conner, être rejetée et tapée par son fiancé qui vient d'apprendre que sa mère était noire. Et c'est très important puisque ça résume à peu près tout ce autour de quoi le film tourne. Noémie Lvovsky, je vous laisse nous en parler.
C'est un chef-d'œuvre. C'est un film immense. J'ai l'impression que c'est un film qui raconte toute la vie. Ça raconte l'amitié, ça raconte l'amour, ça raconte le refus d'être assigné à une identité. Ça raconte le travail d'actrice, ça raconte le travail de gouvernante ou de femme de ménage. Il y a une scène sublime d'enterrement et Mahalia Jackson chante et Douglas Sirk, le metteur en scène, laisse Mahalia Jackson chanter plusieurs minutes. Et c'est absolument bouleversant. Je crois que c'est un des plus grands films du monde.
Et surtout, il y a quelque chose qu'on soulève, puisque l'intrigue principale, c'est donc Laura qui rencontre sur la plage de Coney Island une mère noire avec sa fille blanche, puisque le père était blanc, et qui n'ont pas de domicile. Et finalement, elle va les prendre chez elle en échange du fait qu'elle devienne la gouvernante. Donc, mais les deux filles, la blanche, la fille de Lana Turner, et la fille noire qui a la peau blanche, vont grandir comme des sœurs. Donc il y a cette chose-là, et la fille noire, donc dans son arbre généalogique, mais pas physiquement, ne refuse d'être noire. Et il y a aussi cet autre sujet que vous soulevez, Noémie Lvovsky, qui est que Lana Turner campe quelqu'un qui veut devenir actrice et qui a déjà un certain âge à cette époque, ce qui n'est pas forcément bien dans le show business. Et elle flirte avec un type, Steve le lourdeau, pardon, mais Steve, vraiment, je le déteste, qui arrête pas de vouloir l'empêcher de devenir actrice.
Oui.
Mais ça vous a pas choqué, ça?
Mais non, c'est un film sur la condition des femmes, c'est un film sur la condition des Noirs. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas dire que la fille est pas noire, est blanche. Elle veut être blanche parce que c'est plus facile dans la société d'être blanc. Et elle aime sa mère passionnément, en même temps qu'elle refuse de reconnaître que sa mère est sa mère parce que sa mère est noire et que ça se voit. Voilà. Et qu'elle est catégorisée noire par la société. Donc elle est prise dans ce conflit intérieur qui est, elle veut être blanche parce qu'elle veut avoir, elle pense à raison d'ailleurs, que c'est à l'époque, que c'est la façon d'avoir une vie meilleure. Et pour ça, il faut qu'elle renie sa mère presque, en tout cas publiquement, tout en aimant sa mère passionnément. C'est déchirant. Déchirant, c'est absolument magnifique.
Déchirant, et d'ailleurs, vous recommandez un autre film déchirant, c'est Docteur Jivago de David Lean, tiré du roman homonyme de l'écrivain russe Boris Pasternak. Le film est sorti en 1966 et vous l'avez revu récemment.
Oui, je l'ai revu. En fait, j'adore David Lean, pas seulement le Docteur Jivago, tous les films de David Lean. Mais récemment, j'ai revu le Docteur Jivago et oh là là, mais quel... Bah d'abord, quelle beauté du Technicolor, si je me trompe pas, c'est tourné en Technicolor. Quelle beauté du scope, j'espère que je me trompe pas, que je dis pas des bêtises, et que c'est bien en scope. Et puis, c'est un immense metteur en scène, il essaye des choses de mise en scène à chaque scène. Et puis, c'est une histoire d'un romanesque dingue, c'est trop beau.
Avec Omar Sharif et Julie Christie. Oui. On arrive à l'engagement de fin d'émission, Noémie Lvovsky. Le vôtre, c'est apprendre, ne jamais en avoir fini d'apprendre et faire enfin attention à ma santé. Vous n'avez pas fait attention jusqu'à présent ?
Non. Jusqu'à présent, je n'ai pas du tout fait attention à ma santé, ce qui est complètement stupide. Mais ça n'a aucun intérêt pour les auditeurs.
Et comment vous allez faire alors concrètement ? Quel petit geste allez-vous mettre en place pour y faire attention ?
Ah, ben de ne plus fumer de cigarettes.
Vous avez arrêté ?
Oui, le 6 avril dernier à 10h du matin.
Oh, bravo ! C'est très difficile.
Une date dont on se souvient. Voilà, aller un peu plus régulièrement chez le médecin, faire un peu attention à ce que je mange, essayer de faire un peu d'exercice, voilà.
Et qu'allez-vous apprendre alors ? Des instruments de musique, des langues ?
J'aimerais apprendre à jouer du piano. J'adorerais apprendre à jouer de la guitare. J'aimerais prendre des cours de chant. Et puis j'aimerais prendre des cours d'italien. Et puis lire.
Un programme assez réjouissant. Et il nous reste 2 minutes pour un bonus sur Coppola.
Oui.
Vous vouliez en parler un peu plus ?
Oui, parce que on parlait à propos de la grande magie du temps, et j'ai l'impression que Coppola, qui est très connu pour Le Parrain et pour Apocalypse Now, mais qui a fait tant d'autres films, j'ai l'impression que une de ses obsessions, c'est aussi le temps. Et je me souviens d'une scène dans un de ses films. C'est un homme qui sait qu'il a une maladie, ses cellules vieillissent à toute vitesse. Donc, à 8 ans, il a l'air d'en avoir 40, et il lui reste moins de 10 ans à vivre, il le sait. Il sait qu'il va mourir. Mais, comme nous. Enfin, nous, on ne sait pas dans un futur aussi proche que lui, mais... Et il est allongé dans l'herbe, et il regarde un papillon. Et il y a un champ contre champ entre ce personnage et le papillon qui bat des ailes. Champ contre champ, champ contre champ, le papillon bat des ailes de plus en plus lentement, de plus en plus lentement, et ses ailes se ferment définitivement et champ sur le personnage qui le regarde, et il est le papillon. Cette scène me bouleverse, je la trouve magnifique, elle est muette, il n'y a pas besoin de dialogue, et elle parle du personnage, mais elle parle de nous, elle parle du temps, de vie si court pour un papillon, plus long pour un homme ou pour une femme, mais peut-être pas tant que ça, plus long. Et Mais voilà, et dans, tout à l'heure, quand je vous parlais des couches de temps, il y a aussi le temps qu'on... le temps qui s'arrête et qui continue en même temps. Il y a une phrase dans La Grande Magie, c'est que le temps passe et ne passe pas. Et quand, par exemple, on parlait aussi de deuil tout à l'heure, j'ai l'impression que quand on connaît un deuil, quand on doit faire le deuil de quelqu'un de proche, au moment où on perd cette personne, le temps s'arrête. Pas seulement pour la personne qui meurt, mais pour nous qui lui survivons, il y a le temps continue, mais aussi s'arrête au moment où on perd la personne. Dans un chagrin d'amour aussi, le temps peut s'arrêter.
Oui.
Voilà, ou dans d'autres formes de rupture. C'est innombrable. Enfin, les couches de temps en nous sont innombrables. Et ça me travaille beaucoup.
Merci beaucoup, Noémie Lvovsky, d'être venue dans L'Embellie.
Merci à vous.
Votre film La Grande Magie avec Denis Podalydès, Sergi Lopez et vous-même sort mercredi prochain. On vous verra bientôt à l'affiche de Jeanne Dubarry de Maïwenn et dès à présent dans L'Envol de Pietro Marcello et Youssef Salem a du succès de Baya Kasmi. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que vous êtes aussi sûrs de votre fait qu'un plexiglas poursuivant un basilic en justice pour excès de succulence. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.